France Inter, le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est un ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense, de l'Éducation nationale et il est gardien de l'esprit républicain.
Absolument, bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez un document politique très fort, Passion de la France chez Robert Laffont, collection bouquins, 1600 pages qui racontent un demi-siècle de vie politique. On va en parler. Vous dites, il faut retrouver le sens de l'intérêt public. Je m'inquiète du déclin du civisme en France. À ce titre, ce qui s'est passé samedi avec l'agression verbale d'Alain Finkielkraut, est-ce que c'est une nouvelle preuve de ce déclin du civisme ?
À l'évidence. Alain Finkielkraut est un homme tout à fait respectable et de le voir pris à partie aux abords de la gare Montparnasse par des antisémites qui l'injurient n'est pas acceptable. C'est une ligne qu'on ne doit pas laisser franchir.
Vous l'écriviez déjà dans ce livre-là, dans les années 2000. Vous voyez
j'écrivais
l'émergence
dans les années 2000,
de vents mauvais.
Hein, j'écrivais ceci. Comment le cœur ne se serrerait-il pas à la vue des malheurs grandissants qui courent comme nuées d'orage à l'horizon. La confusion entretenue de toute réserve visant la politique israélienne, avec un renouveau du vieil antisémitisme européen, n'est pas toujours innocente. Elle n'est pas seulement une manière de placer cette politique au-dessus de toute critique. Elle vise à convaincre les Juifs de la diaspora qui n'ont pas d'autre patrie qu'Israël. Or, plus les Juifs de la diaspora s'identifient à Israël, plus monte la judéophobie dans le monde musulman. C'est désormais le Juif en tant que tel que visent les attentats kamikazes. C'est le fait qu'il faut tuer, extirper du reste de l'humanité comme intrinsèquement pervers. La judéophobie se confond alors avec l'antisémitisme.
Ouais.
Donc, cette fusion entre la judéophobie née des problèmes du Moyen-Orient et l'antisémitisme le plus traditionnel, je les discernais déjà il y a 20 ans.
Vous y voyez les deux, là, dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire une résurgence du vieil antisémitisme d'extrême droite et quelque chose de particulier qui est lié à la situation du Moyen-Orient.
C'est ce que dit Alain Finkielkraut.
Non, Alain Finkielkraut, par exemple, il ne voit pas la résurgence des années 30. Il a l'impression que c'est uniquement l'islamisme radical.
Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est agressé par des islamistes, au fond. Et on a pu croire à un moment que c'était une résurgence de la vieille extrême droite, mais il semble, d'après son témoignage, que c'est un petit peu plus compliqué. Pour autant, il ne faut pas faire de tous les musulmans des antisémites. Mmh. Hein, je pense qu'on rentrerait là dans la voie des amalgames coupables.
Trois mois de manifestation et ça ne s'arrête pas, malgré les violences des manifestants, on l'a encore vu samedi, les violences policières aussi. Comment on en sort? Vous qui avez été ministre de l'Intérieur, comment on ramène l'ordre républicain en France?
Je pense que le président de la République a choisi la voie du débat. Il a fait un certain nombre de concessions, 10 milliards, ce n'est quand même pas tout à fait rien. Et j'apprends qu'un certain nombre d'entreprises ajoutent une prime. Ce problème du pouvoir d'achat, si on en reste à la revendication principale des Gilets jaunes, n'est pas soluble rapidement. En réalité, c'est toute une réorientation d'une politique qui est étroitement liée à la mondialisation. On a vu, après des études économiques d'un économiste qui s'appelle Milanovic, que les classes moyennes dans les pays anciennement industrialisés avaient beaucoup souffert de la mondialisation, alors qu'en Asie, au contraire, elles étaient développées. Et par conséquent, ce sont des inflexions de longue durée qu'il faut donner. Il faut réindustrialiser ce pays qui a perdu la moitié de sa production industrielle en une trentaine d'années. Et je dois vous dire que j'ai quand même été à la tête de ce combat contre la désindustrialisation
de
la France.
Et vous avez perdu, puisque vous écrivez dans votre livre qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable de la crise, c'est le produit de 40 ans d'erreurs qui trouvent leurs racines dans les années 80, dans le choix de l'ouverture, du néolibéralisme, de la désindustrialisation et de la paupérisation des classes moyennes. Emmanuel Macron a hérité de cela, c'est vrai, mais n'a-t-il pas également été encore plus loin dans cette vision-là?
Alors, on peut penser qu'il a été, en tant que conseiller de François Hollande, plus loin dans cette direction, mais j'observe que lors de ses derniers vœux, il indiquait très clairement que nous étions à la fin du cycle néolibéral et qu'il fallait prendre conscience de cela pour rebattre les cartes.
Mmh. Alors, vous avez l'impression qu'il a changé ?
Je souhaite qu'il prenne acte de ce que les propositions qu'il a faites à l'Allemagne pour une relance européenne massive à hauteur de plusieurs points de PIB n'ont pas jusqu'ici réussi. Parce que la seule solution, c'est en effet une relance contracyclique en Europe, comme l'ont fait les Américains chez eux, comme le font les Chinois. Il n'y a que l'Europe qui est prisonnière de l'ordolibéralisme allemand, reste le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc, je pense qu'il faut réorienter cette machine. Je propose qu'il y ait une grande conférence européenne où on mette toutes les cartes sur la table. Parce que...
Avec qui? Avec les 27?
Avec tous les pays européens qui doivent bien se rendre compte que
qui ne
l'Europe
pense pas
est
pareil.
Creusée de fractures, que la crise européenne ne s'arrête pas au Brexit, que toutes les nations européennes sont en crise, et que si on continue comme ça, eh bien, on va vers une crise majeure.
Dans votre livre, toujours Passion de la France, dans cette somme, et je précise que c'est vraiment passionnant parce qu'on peut picorer 1600 pages, on n'est pas obligé de tous les lire, mais on peut picorer 50 ans d'écrits, de pensées, de discours politiques où on voit l'évolution de votre pensée et la permanence de vos idées. Vous relatez cette confidence que Mitterrand vous a faite en 1979. Nous sommes d'accord sur tout, Jean-Pierre, sauf sur un point. Je ne crois pas, hélas, que la France, à notre époque, puisse faire autre chose que passer à travers les gouttes. C'était en 1979, est-ce qu'aujourd'hui, face à l'affrontement des grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, d'une certaine manière, d'une moindre manière la Russie, est-ce qu'il avait, il a encore plus raison aujourd'hui? Est-ce que la France ne peut plus rien faire d'autre que d'essayer, tenter de passer à travers les gouttes?
Non, pour être franc, je crois qu'il n'avait pas raison déjà en 1979. C'est le général de Gaulle qui avait raison. En 1940, on était au fond de l'abîme. On n'avait vraiment pas les moyens de passer à travers les gouttes. Il fallait s'offrir, je dirais, en combattant de la dernière chance. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle avec une survision de l'avenir. Je pense qu'il faut compenser par l'intelligence, par la vue à long terme. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, où sur tous les chapitres que j'ai soigneusement découpés, on peut voir mes interventions sur presque 50 ans, et on voit qu'il y a quand même une grande continuité dans l'analyse, si je prends l'Europe, si je prends la guerre du Golfe.
C'est vrai. Vous continuez, vous continuez de penser que la France est une grande puissance?
Je pense que la France n'est pas une très grande puissance au sens où le sont les États-Unis et la Chine qui vont s'affronter au XXIe siècle, mais elle est une des rares puissances de médiation, si elle le veut. Il lui faut cette volonté politique. Elle peut entraîner une partie de l'Europe, en tout cas témoigner pour l'Europe, et être ce qui manque le plus au monde, c'est-à-dire une puissance de raison, une puissance de générosité.
Difficile à dire aujourd'hui.
C'est difficile à dire, mais
revendiquer la raison.
C'est la vocation de notre pays, mais c'est pour l'avoir oublié, notamment dans les affaires du Proche et du Moyen-Orient, que nous sommes aujourd'hui à la traîne et marginalisés.
Jean-Pierre Chevènement, la Ve République, avec sa figure d'homme providentiel, sa relation verticale au pouvoir, est-ce qu'elle n'est pas obsolète? Est-ce que ce n'est pas le moment de passer à autre chose, ou vous continuez de penser qu'elle est notre meilleur bouclier en ces temps difficiles?
Nous avons besoin des deux. Vous vous souvenez que la Ve République a été faite par le général de Gaulle, qui voit dans le président de la République l'homme de la nation, celui qui est garant du long terme et des intérêts nationaux, de la souveraineté nationale. Mais en même temps, Michel Debré parle de parlementarisme rationalisé, d'une dimension horizontale. Je pense que le moment est venu de revaloriser la démocratie représentative, de revaloriser les élus, et notamment les parlementaires.
Bah, ils vont mal, les parlementaires. Est-ce que vous auriez pu imaginer voir un tel déferlement anti-parlementariste?
Et ça tient beaucoup au fait que les parlementaires n'exercent plus leurs prérogatives. Le domaine de la loi s'est réduit comme peau de chagrin. La plupart des domaines sont confiés maintenant à des instances non élues, pas seulement la Commission européenne, les autorités administratives indépendantes, les cours de justice nationales ou autres. Et par conséquent, la part du Parlement s'est réduite de telle sorte que beaucoup de gens se posent la question de savoir à quoi ça sert un parlementaire.
On ne naît pas impunément en 1939, écrivez-vous. Vous êtes né en 1939, vous avez traversé toute la Ve République depuis De Gaulle, sans tomber dans une nostalgie un peu facile, Jean-Pierre Chevènement. Est-ce qu'on ne se dit pas quand même, quand on est vous, que la politique, que les hommes politiques, c'était quand même mieux avant?
C'est-à-dire qu'ils avaient une grande ambition au lendemain de la guerre. Ils voulaient relever la France. Et c'était une tâche qui paraissait presque impossible. Et ils y sont mieux parvenus qu'on ne l'a dit. Hein, grâce principalement à De Gaulle. Mais je ne veux pas jeter l'opprobre sur la 4e République, qui a aussi des réalisations éminentes. Évidemment, il y avait les guerres coloniales. C'est De Gaulle qui a mis fin à la guerre d'Algérie. Mais c'est De Gaulle qui avait la grande vision, la vision large.
Et aujourd'hui, quand vous voyez les hommes politiques aujourd'hui?
Eh bien, je pense qu'il ferait bien de revenir aux sources de la Ve République, et pourquoi ne pas le dire, aux sources de la République elle-même, parce qu'il s'agit de refaire un peuple de citoyens. Et ce que nous voyons aujourd'hui montre bien qu'aujourd'hui nous sommes tombés quand même assez bas dans la dégradation du civisme.
Passion de la France, chez Robert Laffont, collection bouquins, merci à vous, et belle journée Jean-Pierre Chevènement.
Merci Léa, merci Léa, à tout à l'heure.